tous les derniers mercredis du mois, retrouvez les élèves du Collège Centre dans une émission exclusive relatant la Grande Guerre 14-18 dans les Hautes-Alpes.
Les élèves du Collège Centre montent au front, c'est sur Fréquence Mistral.
Bonjour à tous, voici le sommaire de notre émission du mois de mars. Nous allons commencer par une nouvelle lettre de Jacques Roman, toujours sur le front de Filiré, en Lorraine. Il est devenu sergent. Il écrit ici une lettre plus optimiste à sa mère en essayant de la rassurer sur sa situation. Wilfrid Owen était un poète, officier dans l'armée anglaise. Tué en 1918, il laisse plusieurs œuvres majeures dont le Dulce et Decorum Est, que nous allons entendre en français et en anglais. Nous terminerons notre émission par un entretien avec Monsieur Barbier, membre de la Fédération André Maginot, de passage au Collège Centre, le mardi 31 mars.
Jacques à sa mère Isabelle Roman, le 12 mars 1915. Ma chère maman, je reçois votre lettre du 6 mars et vous avez aussi dû en recevoir une qui vous renseigne exactement sur le bon état de ma santé. Ce qu'il se produit, c'est que l'on ressent quelquefois dans la même journée des impressions très différentes et la lettre que l'on écrit se ressent uniquement de celle du moment. C'est pour ça que vous en recevez quelquefois de mélancoliques et d'autres sont pleines d'espérance. Il me semble de nouveau, maintenant, comme à Mexico, que je suis invulnérable et que, pour plus que la guerre dure, je m'en dois de sortir indemne. On nous a fait l'autre jour quelques prisonniers, 4 hommes et 1 capitaine. Ils se sont doute bien défendus, car nous avons trouvé dans leur poste un Boche mort d'un coup de baïonnette et un autre blessé d'une balle. Ce dernier nous a appris qu'il faisait partie d'une reconnaissance de 20 hommes. On avait demandé des volontaires et personne ne s'était offert, alors on les avait désignés d'office. Les prisonniers Boches manquent du reste complètement de dignité. Celui-là, lorsqu'on le descendait, car il ne pouvait pas marcher tout seul et qu'il rencontrait un de nous qui disait « Tiens, voilà un Boche !» répétait « Oui, oui, Boche, mes copains. J'espère que les nôtres ont eu plus de dignité que ça. » J'ai reçu un mot de Bernard et un autre de Charles. Je vois avec plaisir qu'ils vont assez bien. La cavalerie a cet avantage sur nous qu'elle est presque toujours cantonnée dans les lieux habités, tandis que nous ne sortons guère des bois et des villages détruits. Aujourd'hui, nous sommes dans des caves à l'abri du tir de l'artillerie et des hommes en profitent pour faire sur mes indications des périscopes pour regarder par-dessus le parapet avec des tuyaux de l'orgue qui a été à moitié démoli par les percutants Boches. C'est un tube percé en haut et en bas, mais de côté et en un sens inverse d'un trou. Dans chacun, un morceau de miroir à 45 degrés, de façon que l'image lumineuse est renvoyée d'abord verticalement du premier vers le second miroir, qui le réfléchit lui-même et la renvoie de nouveau horizontalement. Je vous prie de me donner souvent des nouvelles d'Elisabeth et de lui faire toutes mes amitiés. J'espère bien que le petit est maintenant en bonne voie de guérison. Je vous embrasse bien. Jacques Roman.
Né le 18 mars 1893 à Oswestry, dans le Shropshire, Wilfred Edward Salter Owen est l'aîné de 4 enfants de Tom Owen, alors employé des chemins de fer, et de Susan Shaw, issue de la bourgeoisie locale. En 1897, la mort d'Edward Shaw signe la fin de l'âge d'or pour la famille Owen, qui devra alors mener une vie plus modeste. Après une succession de déménagements à Birkenhead, sur la Mersey, les Owen reviennent dans le Shropshire, région natale de Wilfred, qui suit alors les courses de l'école technique. Très jeune, Wilfred s'enthousiasme pour la poésie, et John Keats en particulier. Il ne cessera alors plus d'écrire. En 1913, après une expérience malheureuse comme assistant laïque à Dundas, près de Reading, il y laissera bon nombre de ses convictions religieuses. Et un échec à l'entrée de l'université, il débarque à Bordeaux, où il enseigne l'anglais à l'école avant de devenir précepteur privé.
En octobre 1915, à l'heure où la Grande-Bretagne ignore toujours le service militaire, il quitte la France, s'engage comme sous-lieutenant et rejoint le front de la Somme en janvier 1917. Gravement traumatisé par une explosion, il est bientôt évacué à l'hôpital de Craig Lockhart, en Écosse, où il rencontre le poète Siegfried Sassoon, officier comme lui, héros décoré. et récent auteur d'une tonitruante déclaration pacifiste. Ce dernier l'incite à utiliser son expérience dans ses écrits. Pour Owen, qui n'a jusque-là produit que des pièces plutôt classiques sans grande originalité, c'est le déclic. Le tâcheron post-romantique trouve sa voie, suit une période d'intense activité créatrice, puis une série de poèmes majeurs, dont Strange Meeting et Exposure, qui constituent peut-être le sommet. De son vivant, Wilfrid ne publiera pourtant que 4 poèmes dans la presse nationale. Mais le temps lui est compté. Il repart bientôt pour le front, se distingue en septembre 1918 sur la ligne Beaurevoir-Fronsomme et meurt à Ors, le 4 novembre 1918, lors du franchissement du canal de la Sambre, à la tête de son peloton. Il avait 25 ans. 7 jours plus tard, l'armistice était signé. À cette même date, alors que les cloches sonnent autour des églises, parviennent à ses parents le télégramme fatidique. D'après Xavier Hanotte, écrivain belge francophone. Pliés en deux, tels de vieux mendiants sous leurs sacs, harpies cagneuses et crachotantes, à coups de jurons, nous pataugions dans la gadoue. Hors des obsédants éclairs, et pesamment que l'opinion vers notre lointain repos. On marche en dormant. Beaucoup ont perdu leurs bottes et s'en vont. Boiteux chaussés de sang, estropiés, aveugles, ivres de fatigue, sourds même aux ululements estompés des 5-9 distancés qui s'abattent vers l'arrière. Le gaz, vite les gars, effarés et à tâtons coiffant juste à temps leurs casques malaisés. Mais quelqu'un hurle encore et trébuche. Et s'effondre, se débattant comme enlisé dans le feu ou la chaux. Vaguement, par les vitres embuées, l'épaisse lumière verte, comme sous un océan de verre, je le vis se noyer. Dans tous mes rêves, sous mes yeux impuissants, il plonge vers moi, se vide à flot, s'étouffe, il se noie. Quand des rêves suffocants à vos pas, à vous aussi, suivent le fourgon où nous l'avons jeté, que votre regard croise ces yeux blancs convulsés, cette face qui pend, comme un démon écœuré de péché. Que votre oreille, à chaque chaos, capte ces gargouillis de sang, jaillissant des poumons rongés d'écume, ce cancer obscène, ce rebut d'amertume, tel, immonde, l'ulcère à jamais corrompant la langue innocente. Ami, avec ce bel entrain, plus ne dirait aux enfants, brûlant de gloire désespérée, ce mensonge de toujours, dulc et decorum est, pro patria mori.
Then he shouted to them there, it's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. It's a long, long way to
and let me know. If I make mistakes in spelling Molly dear, said he, remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, for the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly.
Bend double, like old buggers under sex, knock-kneed, coating like hags, we cursed through sludge, till on the hounding flares we turned our backs, and towards our distant rest began to trudge. Men marched asleep, many had lost their boots, but limped on, bloodshod, all went lame, all blind, drunk with fatigue, deaf even to the hoots of tired, understripped 5/9 that dropped behind. Gas, gas, quick boys! An ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time, but someone still was yelling out and stumbling, and floundering like a man in fire or lime. Dim through the misty panes and trick green light, as under a green sea I saw him drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If in some smothering dreams, you too could pace behind the wagon that we flung him in, and watch the white eyes writhing in his face, his hanging face, like a devil sick of sin. If you could hear, at every jolt, the blood come gargling from the frost-corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as the cud of vile, incurable source of innocent tongues, my friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie, dulce et decorum est pro patria mori.
They were summoned from the hillside, they were called in from the glen, and the country found them ready at the stirring call for men. Let no tears add to their hardships as the soldiers pass along, and although your heart is breaking, make it sing this cheery song. Are yearning, though your lads are far away, they dream of home. There's a silver lining through the dark cloud shining. Turn the dark cloud inside out till the boys come home. There came a pleading, help a nation in distress, and we gave our glorious laddies honor bade us do no less. For no gallant son of freedom to a tyrant's yoke should bend, and a noble heart must answer shall
to the secret call of a friend. Keep the home fires burning while your hearts are yearning, though your lands are far away.
Nous sommes avec Monsieur Barbier qui fait partie de la Fédération André Maginot et qui vient donner un chèque de 1000 euros au Collège Centre pour financer un voyage sur les traces de la Grande Guerre. Monsieur Barbier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Fédération Maginot ?
Alors oui, la Fédération Maginot, c'est une fédération qui regroupe 330 000 membres dans 253 groupements. Et donc aujourd'hui, elle détermine tous ses pouvoirs pour pouvoir aider les anciens combattants et victimes de guerre, pour permettre d'apporter une réparation, voire même un réconfort auprès des familles et des intéressés qui ont subi des dommages au cours de combat.
Depuis quand cette fédération existe-t-elle ?
Alors la fédération, elle existe depuis 1890. Et elle a été remise au goût du jour et principalement en grande activité par André Maginot, qui lui a vécu les événements de la guerre de 14, a été blessé lui-même et s'est aperçu qu'il y avait de nombreux blessés, mutilés. Et donc il fallait absolument apporter un concours particulier auprès de ces familles détruites, de ces combattants qui étaient complètement démontés physiquement et moralement. Et donc, il était utile que la Fédération Maginot puisse trouver des moyens pour pouvoir apporter un réconfort et voire même une resocialisation de tous ces gens qui ont été victimes de la guerre. Pour cela, elle a cherché des fonds pour essayer d'apporter une aide financière. Cette aide financière a été trouvée par une souscription auprès de la Loterie Nationale qui, au début, portait le nom de Les Gueules Cassées. Les Gueules Cassées, qui était une loterie nationale, et donc qui a commencé à apporter du réconfort financier pour pouvoir permettre le financement soit des prothèses de ceux qui étaient blessés, ou soit une aide médical pour tous les blessés victimes de guerre. Aujourd'hui, eh bien, ces gueules cassées ont été un petit peu réparties. Elles existent toujours, mais dans une autre fondation. C'est la Française des Jeux qui, aujourd'hui, a pris le relais. Et donc, la Fédération Maginot est toujours actionnaire. Et c'est qu'il y procure, bien sûr, quelques rentrées d'argent permettant de financer les voyages scolaires, justement, sur les hauts lieux historiques, ou apporter des moyens soit pour le social ou soit pour la défense des droits de tous les combattants et victimes de guerre.
Et comment marche cette fédération ?
Il y a bien sûr un président qui est à sa tête. Il y a toute une structure qui est composée d'administrateurs et dont c'est réparti en six grandes commissions qui s'occupent les droits pour défendre les droits de tous les combattants. Ensuite, il y a les actions sociales pour les personnes qui se retrouvent sans revenus, avec le père qui serait mort au combat et dont la veuve n'a plus les moyens de survivre. Donc on apporte bien sûr des moyens financiers pour continuer à faire vivre ces personnes. Ensuite, il y a les grandes causes humanitaires. Lorsque des catastrophes naturelles, on apporte des mouvements financiers pour pouvoir aider les victimes. On finance également les voyages auxquels vous participez pour pouvoir faire la découverte de hauts lieux historiques. Ça, c'est ce qu'on appelle le devoir civique et de l'entretien de la mémoire.
Et pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans cette fédération ?
Alors moi, pourquoi je me suis engagé dans cette fédération ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que je trouvais qu'il y avait une grande utilité à apporter, aussi bien par rapport à mon vécu, puisque j'ai 29 ans de service dans l'armée, j'ai participé à des campagnes extérieures, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et puis aider principalement nos jeunes combattants aujourd'hui, lorsqu'ils étaient blessés en Afghanistan ou au Mali aujourd'hui, malheureusement, les familles sont complètement perdues, démunies. L'armée n'a pas toujours la présence d'esprit de pouvoir apporter des secours, bien qu'elle fasse très très bien son travail. Mais c'est au-delà. Lorsque la vie reprend ses droits, la fédération entre à ce moment-là en action pour apporter un concours supplémentaire, soit un réconfort matériel, moral ou d'orientation pour trouver les meilleurs soins et apporter les meilleurs moments, la défense des droits auprès des hautes autorités qui parfois ne voient pas la nécessité ou l'obligation d'aller au-delà de ce qui est prévu par la loi.
Et pourquoi donner de l'argent pour ce voyage ? Pourquoi une telle somme ?
Parce que la Fédération Maginot a déterminé une fourchette de capacité d'octroyer des fonds. D'abord pour une classe qui doit comporter un peu plus de 23 élèves. Donc c'est une classe complète. Donc 23 élèves, ça touche beaucoup de monde, mais également ça nécessite un financement. Ce financement, il est prévu entre une somme minimale qui est de l'ordre de entre 800 et 1000 euros et qui peut aller jusqu'à 2000 euros maximum. Suivant le type de voyage et l'importance du voyage et de savoir comment est financé le voyage par lui-même, puisque ce sont vos professeurs avec monsieur le principal qui organisaient, qui structuraient déjà ce voyage. Et donc, il y a les parents d'élèves qui financent. Il y a, pourquoi pas, le conseil général qui vient peut-être au secours, peut-être également l'académie, mais on sait que ce sont des structures qui ne sont pas tellement riches. Et donc, il est important, si on veut faire continuer le prix de la mémoire et du civisme, que la Fédération Maginot puisse donner des fonds à concurrence de ce qui a été demandé par rapport aux écoles qui cherchent à avoir des fonds. On voit à peu près ce que peut disposer chaque année les fonds qui sont distribués entre 253 élèves et établissements. Vous faites un rapport de force en disant une moyenne de 1500 euros. Voilà à peu près c'est le volume que représentent chaque année les dépenses organisées par la Fédération André Maginot.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
J'espère surtout que ça vous en permettra d'en tirer profit. D'une part, faire connaître André Maginot, parce qu'on ne la connaît pas. Moi-même, quand on est venu me chercher, me présenter en me disant « Est-ce que ça vous intéresserait de faire partie d'André Maginot ?» J'ai dit « André Maginot, je suis comme tout le monde, je connais bien la ligne André Maginot. » Mais pour moi, c'était quelque chose de très inconnu. J'imaginais même pas qu'il y avait une continuité dans notre vie sociale aujourd'hui, qu'une fédération André Maginot puisse être présente et participe à toutes ces actions sociales, financières ou de découverte pour le civisme et la mémoire. Maintenant, j'en suis particulièrement heureux de faire partie de cette fédération et je ferai le maximum pour la représenter du mieux que je peux et puis surtout la donner satisfaction autour de nous.
Thank you.